Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France.
Bonsoir à tous, chers amis, bienvenue dans les vraies voix qui font bouger la France. Nous sommes ensemble sur Sud Radio jusqu'à 20h, comme tous les mercredis soirs. La parole est aux entrepreneurs ce soir, 19h30. Parlons vrai avec les entrepreneurs. Vous retrouverez Stéphane Soumier sur Sud Radio et sur Bismart en compagnie de ses invités. Mais dans quelques instants, place à Denis Jacquet et aux voix des entrepreneurs. Justement, on va vous parler presque de science-fiction. Enfin, ça aurait dû être de la science-fiction, c'en était il n'y a pas si longtemps. Justement, l'intelligence artificielle, comment elle va justement révolutionner notre vie de tous les jours. Nous serons avec Luc Julia, notre invité, notre grand témoin dans quelques instants. C'est l'un des concepteurs dans une vie antérieure de ce fameux logiciel qu'on appelle Siri. Dis Siri, qu'est-ce qu'on fera demain? Qu'est-ce qu'on pourra faire? Les vraies voix qui font bouger la France vous expliquent tout dans un instant.
Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Jean-Marie Bordry, Denis Jacquet, les voix des entrepreneurs.
Je serai content quand tu seras là.
Belle manière d'accueillir les voix des entrepreneurs. Hein, c'est choisi par Denis Jacquet aujourd'hui. Bonsoir à vous, Denis Jacquet.
Bonsoir.
Vous avez choisi Vieille Canaille. Tout le monde aime cette chanson. Pourquoi parler de Vieille Canaille alors qu'on parle du futur et de l'intelligence artificielle ce soir? Dites-moi ça.
En fait, c'était juste un réflexe de sale gosse pour dire que comme nos gouvernements européens sont en train de tuer nos entreprises, nous, entrepreneurs, on dit qu'on y seront contents quand nous serons morts, nous, les Vieilles Canailles.
Effectivement.
C'est un contre-pied.
Retrouvons-nous ce soir, en tout cas, entre Vieilles Canailles. Nous allons vous parler de ce qui aurait dû être de la science-fiction, mais qui se passe aujourd'hui, l'intelligence artificielle et de toutes les possibilités miraculeuses qui seront ouvertes grâce à l'intelligence artificielle. Demain, nous sommes avec Vanessa Pérez, comme plusieurs fois par mois sur Sud Radio. Bonsoir à vous, Vanessa. Vous nous présenterez deux entreprises, deux de vos coups de cœur, justement. Et puis, nous sommes avec notre grand témoin qu'on accueille tout de suite avec plaisir. Luc Julia, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes l'un des plus grands spécialistes français de l'intelligence artificielle. Vous êtes aujourd'hui le vice-président innovation de Samsung. Je le disais aussi dans une vie antérieure, parce que c'est une autre entreprise. Vous avez été parmi cette équipe de concepteurs de ce logiciel dont tout le monde a plus ou moins entendu parler, celui qu'on appelle aujourd'hui Siri. Ça s'est mis en place assez facilement finalement. Est-ce que vous vous attendiez à ce qu'il se popularise aussi vite ?
Aussi vite, je ne sais pas si c'est vraiment ce qu'on peut dire, parce qu'on l'a conçu en 1997 et c'est sorti en 2011.
C'est vrai.
Donc, ça a mis quand même 14 ans.
Oui, ça a mis beaucoup de temps.
Ça a mis un petit peu de temps. Mais une fois que c'est sorti, effectivement, on avait compris que ça allait être une sorte de traînée de poudre relativement rapidement. Et on a eu 300 millions d'utilisateurs la première année. Donc, effectivement, ça, c'était pas trop mal.
Succès fracassant, effectivement. Denis Jacquet.
D'abord, on ne se connaît pas avec Luc Julia, ce qui est assez rare dans mes invités. Donc, c'est une très belle rencontre et je suis très heureux que Luc soit là parce que ça fait partie des gens qui n'ont pas un discours de salon, mais un discours très pratique, qui disent ce qu'ils pensent. C'est un vrai bonheur. Et puis surtout, qui savent de quoi ils parlent. Et je pense que Luc est vraiment l'exemple vivant de ce qu'une intelligence non artificielle peut déjà produire de fantastique. Donc, on est très heureux de vous avoir. Et demain matin, mon bonheur est complet puisque vous avez dû vous croiser. Je pense peut-être à l'époque chez Apple, je passe ma matinée en visio demain avec Kay Fouli, donc je pense que vous avez dû peut-être croiser à l'époque ou après son passage chez Apple et avec Marco Landi qui était le patron d'Apple, qui a été l'artisan du retour de Steve Jobs chez Apple. Donc moi, mes 24 prochaines heures sont juste extraordinaires. Alors, je ne veux pas prendre trop de temps, Luc, j'ai une question que je n'avais pas prévu de vous poser, mais que j'ai envie de vous poser. Est-ce que le développement technologique aujourd'hui, est-ce que ça devrait être au service d'une vision? Utilisons un gros mot, est-ce qu'on devrait y mettre une éthique ou est-ce qu'il faut laisser les chercheurs chercher, les applications se faire et la vie faire son chemin?
Je pense que les chercheurs cherchent et ils trouvent des trucs et je pense qu'ils ont eux-mêmes des éthiques personnelles. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, quand on est un chercheur, quand on est quelqu'un qui est à la marge, hein, qui est on the edge, comme on dit, on est toujours à la limite de quelque chose. Et donc, des fois, on comprend ce qui va se passer, des fois, on ne comprend pas forcément ce qui va se passer, mais il faut toujours expliquer ce qu'on fait et expliquer quels sont les potentiels dangers quand on les découvre. On ne les découvre pas forcément au départ, mais dès qu'on les voit, il faut, alors ça, c'est mon éthique personnelle, il faut, je pense, les mettre sur le devant de la scène. Donc, On cherche, et puis des fois, on trouve des trucs qui ne sont pas très cool, donc au lieu de les mettre sous le tapis, on dit on a trouvé quelque chose qui peut être dangereux, quelque chose qui peut être extraordinaire. Ça dépend comment on l'utilise. Mais à la fin, comme j'aime bien dire, pour les intelligences artificielles, ce sont des outils. Ce sont des outils oui. dont on a le manche. Hein, c'est comme un marteau dont on tient le manche. Et c'est nous qui décidons comment on va l'utiliser. Donc,
Bien sûr. Est-ce que c'est une question, je ne sais pas, récemment, je n'ai pas besoin d'exemple et surtout pas de confidentiel parce que vous travaillez chez Samsung, mais c'est des questions que vous avez souvent dans votre vie professionnelle, du coup ?
Bien sûr. En ce moment, je peux vous dire un truc qui, moi, m'embête depuis quelques années maintenant. Hein. C'est la consommation énergétique de toutes ces technologies. Alors bon, moi, oui, je fais de la technologie. Je fais des robots depuis que j'ai l'âge de 9 ans. Hein, donc, ça fait un petit moment. Mais je me rends bien compte que tous les bénéfices que peut nous apporter la technologie, il y a aussi la face cachée que moi, je n'avais peut-être pas compris il y a encore quelques années, que je comprends de plus en plus et qui m'embête de plus en plus. Donc oui, j'ai des problèmes tous les jours. Je me demande si ça vaut vraiment le coup de développer ce qu'on est en train de développer, si on est en train en même temps de tuer la planète.
Et ce genre de questions, vous avez commencé de manière prégnante à vous les poser à quelle époque à peu près ? Parce que effectivement, vous l'avez dit, depuis que vous êtes enfant, vous concevez des robots, mais l'impact écologique de ce qu'on peut créer et populariser, c'est devenu important pour vous à partir de quand à peu près ?
Depuis une petite dizaine d'années, je comprends que ça arrive avec le développement surtout des data centers, ce qu'on appelle les data centers, là où il y a tout ce big data, le fait qu'on utilise ces nouvelles méthodes d'intelligence artificielle depuis le début des années 2000, on va dire, c'est là où je commence à comprendre que il y a un impact important des outils eux-mêmes qui font que la vie est meilleure pour plein de choses. Hein. Si vous me dites qu'on va développer une intelligence artificielle pour découvrir des cancers, je veux dire, évidemment, je veux le faire. Mais si en même temps, vous me dites que ça prend 440 kilowatts pour faire quelque chose qui est très ponctuel, peut-être qu'il faut faire attention. Donc, il y a une balance à comprendre. Je n'ai pas compris tout de suite, mais de plus en plus, cette histoire de big data, ces data centers, etc., je me rends compte qu'il faut faire très, très attention. Et il y a des gens qui commencent à tirer la sonnette d'alarme. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup.
Effectivement, assez difficile, mais c'est vrai que c'est une préoccupation assez nouvelle. Restez avec nous, Luc, Julia. Vanessa Pérez, entrepreneur d'Un Monde Nouveau, justement, vous allez nous présenter l'un de vos coups de cœur. C'est une école qui forme au métier du numérique, justement, ceux qui en ont le plus besoin.
Exactement, Jean-Marie. Alors, c'est une évidence de dire que la technologie est partout dans nos vies aujourd'hui, hein, que l'on fasse un selfie, qu'on soit sur Google ou que l'on fasse nos courses en ligne. Et pourtant, on observe un manque cruel de profils dans les métiers du numérique parce que notre société, en fait, se refuse parfois de recruter parmi des candidats qui, de prime abord, ne sembleraient pas éligibles. Alors, on pense notamment à des personnes non diplômées, des personnes en situation de handicap, des réfugiés même, je vous raconterai une belle histoire à la fin de cette chronique, des jeunes issus de quartiers défavorisés, et aussi, et toujours même s'il y a des progrès grandissants, les femmes, parce que dans les mentalités, on se dit que les femmes n'ont pas
les
forcément accès à la tech. Exactement.
On verra d'ailleurs avec Luc Julia dans un instant s'il le constate aussi lui-même dans son univers professionnel. En tout cas, avec les barrières à l'embauche qui sont importantes.
Complètement. Et c'est pourquoi je vais vous parler aujourd'hui d'une société, enfin d'une école qui s'appelle Simplon. Donc Simplon, c'est une entreprise sociale et solidaire qui a été créée en 2013 et qui propose des formations, tenez-vous bien, au métier du numérique, gratuites et diplômantes. J'insiste sur gratuites et diplômantes dans toute la France et à l'international. Et cette formation, elle peut vous conduire au métier du développement web, de l'intelligence artificielle, de la cybersécurité, du cloud computing et j'en passe. Et ainsi, vous permettre de prétendre à une très belle carrière dans le domaine du numérique.
Alors, c'est ouvert à tout le monde ou alors il faut justifier de certaines conditions, par exemple ?
C'est ouvert à tout le monde, mais il faut avoir une sacrée dose de motivation parce que, comme vous l'imaginez, effectivement, la barrière à l'entrée est plus la motivation que la qualification. Donc, il faut savoir que depuis son démarrage, Simplon accueille 80% de demandeurs d'emploi. Il y a 10 000 apprenants qui ont été formés depuis 2013, dont 39% de femmes. Il y a plus de 72 écoles, alors ils appellent ça des fabriques, mais à travers la France, et 24 à l'international. Et Simplon propose plus de 200 formations pour au final devenir salarié ou entrepreneur dans le domaine du numérique. Donc je vous encourage à aller sur simplon.co pour découvrir et avoir plus de détails sur
simplon.co. Voilà, pour tous ceux qui voudraient postuler, changer de voie par exemple, ou découvrir une nouvelle carrière, c'est vrai que c'est un beau coup de cœur. Luc, Julia, vous êtes toujours avec nous. Quel est le profil en général de ceux qui se lancent dans une carrière professionnelle dans les métiers du numérique ? Alors je sais que c'est extrêmement vaste les métiers du numérique, et bien sûr, mais en général, quel est le profil ?
Profil, c'est mathématiques. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est capable de faire des mathématiques, hein, parce qu'à la fin, ces intelligences artificielles dont on parlait tout à l'heure, bon,
Évidemment.
c'est pas autre chose que des mathématiques, que ce soit de la logique, que ce soit des statistiques. Donc il faut être fort là-dedans. Ceci dit, moi je suis pour la diversité, par exemple, il y a une grande différence entre la France et les États-Unis. Là où je suis aujourd'hui, moi je regarde pas forcément les diplômes, alors qu'en France on regarde beaucoup les diplômes, on regarde beaucoup d'où viennent les gens. Ici aux États-Unis, c'est bien différent, où on regarde plutôt, et surtout dans mon cas, je regarde les gens qui sont différents, qui ne sont pas les mêmes que moi. Ça ne me sert à rien d'avoir quelqu'un qui est une carbone copie de moi-même. Donc j'aime bien regarder, donc avoir des gens différents. À propos des femmes, c'est très compliqué. Par exemple, dans mon groupe, je suis un des seuls dans la vallée à essayer d'avoir 30% de femmes dans mes effectifs. C'est très, 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 très compliqué
Qu'est-ce
parce
qui fait que
qu'elles
vous n'y
osent pas en
arrivez pas?
général.
Oui, ce sont les femmes qui s'autocensurent.
Bah oui, elles osent pas, je pense que c'est ça. Alors, en France, j'ai réussi à avoir quelques bonnes ingénieures, donc j'en ai quelques-unes, mais c'est vrai qu'ici, c'est encore plus compliqué qu'en France, par contre, pour avoir des femmes, parce que dès le début, elles sont certainement conditionnées pour qu'on leur dise qu'elles ne devraient pas aller dans ces métiers-là, alors qu'elles sont évidemment aussi bonnes que nous en
Il n'y a
mathématiques.
pas de métier, il n'y a pas de métier d'homme ou de métier de femme, et spécifiquement d'ailleurs dans ce domaine. Denis Jacquet.
Oui, alors il y a plein de choses à dire. Je pense que Luc sait aussi, il y en a qui sont très bons, qui deviennent, quand ils passent dans le privé, si je puis dire, de très bons programmeurs notamment, c'est ceux qui étudient la Kabbale en Israël, qui étudient la Torah, qui, par un mécanisme d'esprit et de formation, deviennent d'excellents programmateurs. D'ailleurs, les Coréens envoient des wagons entiers pour étudier comment les Kabbalistes deviennent d'aussi bons programmeurs. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais une question, Luc, sur notre vie quotidienne de demain, deux questions. Un, est-ce que c'est vrai que c'est aujourd'hui plutôt l'automatisation des processus qui est un petit peu l'obsession aujourd'hui et l'investissement majeur. Et puis tout à l'heure ou maintenant aussi, qu'est-ce que ça va changer dans notre vie quotidienne? Comment on va le voir vraiment tous les jours? Alors, on le voit déjà un peu, mais on ne le sait pas. Mais est-ce qu'il va y avoir un espèce d'effet exponentiel tout à coup? Là, on va se prendre une avalanche de choses très intéressantes dans quoi, les 5, les 10 prochaines années?
Je pense qu'on se prend des trucs intéressants depuis déjà 10-15 années, d'accord? Depuis
D'accord.
l'avènement d'Internet, depuis le renouveau de ces intelligences artificielles. C'est effectivement de l'automatisation, hein. Donc, j'ai un problème avec le mot intelligence parce que c'est pas vraiment de l'intelligence, tout ça. Mais par contre, c'est ce que vous venez de dire, c'est exact, c'est-à-dire que c'est de l'automatisation. Et de plus en plus, on automatise les tâches qu'on n'a pas envie de faire. Et donc, ces robots, hein, quels qu'ils soient, que ce soit des assistants ou que ce soit des robots physiques, nous remplacent ou remplacent ces tâches qu'on n'a pas envie de faire. Donc, ça, on va le voir. On le voit de plus en plus, et c'est effectivement très excitant parce qu'il y a des choses qui sont vraiment pas agréables du tout, qui nous libèrent du temps à faire des choses qui sont beaucoup plus agréables. Donc, on va voir ça de plus en plus. Autour de moi aujourd'hui, par exemple, j'ai 219 objets connectés dans ma maison, et ces 219 objets connectés font des trucs que j'ai pas envie de faire et me libèrent du temps pour pouvoir
Quels
discuter avec
exemples
vous, pour pouvoir
de
lire,
la vie
etc.
quotidienne, justement, quels trucs que vous n'avez pas besoin de faire et qui sont faits par des objets connectés? Si vous avez une liste, alors pas forcément les 200, mais qu'est-ce que vous n'avez pas besoin de faire en ce moment?
Voilà, je ne vais pas vous donner 200, mais par exemple, un truc qui est, j'ai une routine qui s'appelle l'apéritif, la routine apéritif. Quand j'arrive le soir, bah, automatiquement, il y a plein de choses qui se mettent en branle. Alors, il y a mon garage qui s'ouvre quand j'arrive, mes portes qui s'ouvrent, les alarmes qui se désactivent. Ça met automatiquement le feu dans la cheminée, la musique qui va bien, les couleurs de lumière qui vont bien. Ça prépare l'ambiance de l'apéritif, si vous voulez. Il y a à peu près une vingtaine d'objets qui se mettent à travailler ensemble pour me mettre dans une humeur, dans une mood, comme on dit ici, qui est correcte pour l'apéritif.
C'est une symphonie connectée pour
Il y a
l'apéritif.
Boney M en 3D qui
Exactement.
commence à jouer.
Effectivement. Alors, tiens, juste avant de redonner la parole à Vanessa Pérez pour présenter un autre coup de cœur, petite question sur l'actualité. On est confronté depuis presque un an, d'ailleurs, on sera peut-être encore reconfiné, à une pandémie qui nous a fait changer toutes nos habitudes sans forcément passer par la technologie. Est-ce que ça vous a fait vous poser des questions sur ce dont nous aurions besoin demain, auxquelles vous n'auriez pas pensé avant la pandémie, Luc Julia?
Franchement, je ne peux pas vous dire oui, parce que on avait déjà pensé à ça avant. C'est-à-dire que tous les outils, et c'est pour ça que vous avez vu que les entreprises numériques s'en sont sorties plutôt pas mal, hein, dans ces derniers mois, et c'est parce que nous, on a l'habitude déjà de travailler en remote, hein, donc faire ce fameux travail à la maison et choses comme
Le
ça,
télétravail.
parce que les entreprises sont très dispersées, on a l'habitude à ce que les gens travaillent déjà de chez eux, et puis puissent optimiser leur temps en utilisant des outils qui sont à disposition, des outils numériques, que ce soit les outils de vidéoconférence comme celui-là ou d'autres. Donc, en fait, ça a juste justifié, ça a juste confirmé que ce qu'on préparait depuis des années pour ces interactions qui ne sont pas forcément très sociales, hein. C'est pour ça que, par exemple, quand on parle des réseaux sociaux, moi, ça me fait marrer parce que les réseaux sociaux sont complètement asociaux déjà. Mais la vérité, c'est qu'on avait déjà préparé ces outils pour être prêt à faire des choses quand on n'est pas forcément tous ensemble dans une pièce. Et oui. Ça, on a eu la confirmation dans les mois qui
viennent. Vous aviez raison avant qu'on ait besoin de le reconnaître. Effectivement, Vanessa Pérez, entrepreneur d'un monde nouveau, justement, vous nous présentez un deuxième coup de cœur qui va vous parler, Luc Julia, puisque vous concevez des robots depuis que vous êtes enfant. Là, Vanessa, vous nous parlez d'un robot compagnon pour les pensionnaires d'EHPAD.
Notamment. Exactement. Alors, il est made in France, il est conçu à Roubaix et il est fabriqué en Bretagne. Alors, c'est quoi un robot compagnon ? Eh bien, c'est un robot qui s'adresse aux personnes âgées, qu'elles soient effectivement, comme vous l'avez dit, en EHPAD ou à domicile, et qui a pour principale fonction de rompre l'isolement, parce qu'on l'a vu, l'isolement a causé de graves dégâts, en proposant des jeux, de l'animation et bien entendu une assistance médicale. Et ce robot, il s'appelle Cutie, C-U-T-I-I, je le dis parce que mignon. C'est important aussi, Cutie comme mignon, effectivement. Et il a été créé en 2016 par la start-up CareClever, qui est dirigée par Antoine Bataille. Donc il est très mignon, effectivement, il a des grands yeux qui le rendent très très sympathique. Il est télescopique pour pouvoir s'en servir debout ou assis. On interagit avec lui en lui donnant un ordre.
Alors c'est quoi comme interaction, par exemple,
Cutie, mets-moi la télévision.
Ouais.
Cutie, j'aimerais faire ma petite gym. Cutie, j'ai besoin d'appeler ma famille. Cutie, est-ce qu'on peut faire des activités ludiques ?
C'est comme Siri, en fait. C'est presque le même principe.
Je vais peut-être pas le dire devant Luc Julia, mais voilà. C'est à peu près le même principe, exactement.
C'est ça.
Et donc, il faut vraiment retenir son nom parce qu'il était au show mondial de Las Vegas qui a eu lieu en virtuel cette année, qui s'appelle le Consumer Electronics Show.
Et
donc, là, aujourd'hui, Antoine Bataille est équipé une trentaine de résidences en France et s'apprête à envahir le marché américain. Donc, Cutie.
Est-ce que vous êtes séduit par l'idée même de Cutie, Luc Julia ?
Je pense que ce qui est très important, vous avez dit, bon, c'est la suite de Siri, c'est une suite multimodale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Siri, c'était que la voix. Là, maintenant, on va pouvoir commencer à ajouter d'autres signaux. Donc, Cutie, il a effectivement des grands yeux, il a effectivement, on peut le toucher, d'accord ? Et ça, c'est très, très important de passer à une étape supplémentaire, qui est l'étape d'avoir des interactions multimodales en utilisant tout. Nos sens et pas seulement la voix.
Le
parce
regard,
que le toucher,
pas
la vue, l'odorat, pourquoi pas un jour que Cutie, s'il nous envoie un peu des odeurs, ça peut être intéressant aussi. Donc on peut imaginer très bien ça dans l'avenir et je pense que c'est très très important de développer ça, surtout pour les gens qui sont en situation effectivement, que ce soit d'isolement, mais aussi les Alzheimer par exemple.
Effectivement.
C'est très important de garder cette interaction parce que nous on n'a pas forcément la patience de temps en temps de le faire nous-mêmes.
Et c'est important de maintenir la santé cognitive notamment des personnes âgées dépendantes. Denis Jacquet.
Bon, je suis ravi de savoir qu'un robot ch'ti boit du chouchen, donc c'est une bonne nouvelle d'interaction interrégionale.
La Bretagne et les Hauts-de-France,
et
effectivement.
La Bretagne et Roubaix. Luc Julien, j'ai une question. Alors, je ne pense pas qu'elle soit provocatrice. Ça bouille dans la vallée et en Chine un peu partout, mais j'en ai deux très rapidement. La première, c'est est-ce que le téléphone va disparaître pour un autre outil de communication ? Et si oui, est-ce que c'est prévisible comme avenir ou pas du tout ? Et la deuxième, il y a un match sur l'IA, enfin c'est ce que disait Kefouli d'ailleurs dans son bouquin, entre les États-Unis et la Chine. Comment vous le voyez aujourd'hui
qui
ce match ?
Qui va gagner ? Luc Julia.
Alors, je vais commencer par la première. Oui, le téléphone va disparaître. Le téléphone, c'est un truc inadmissible aujourd'hui. Quoi. Cette interface est absolument insupportable. C'est un truc que vous perdez, ils sont dans la poche. Enfin, il y aura des interactions qui vont être beaucoup plus immersives. Et donc, vous allez avoir des téléphones autour de vous en permanence. D'accord, ça va être du téléphone virtuel. Vous n'avez pas besoin de trimballer ce machin qui est
dématérialisé.
C'est ce que je pense, ça va être dématérialisé et ça va arriver très bientôt en fait, hein, parce que la réalité c'est qu'aujourd'hui déjà, il y a des choses qui peuvent se passer en plus ou moins virtuel tout autour de vous. Donc ça c'est une chose. Maintenant, pour Kefouli et pour ce qu'il dit, moi je suis pas d'accord en fait, il y a effectivement une bataille, c'est évidemment qu'il y a des batailles, tout le monde essaye d'être les premiers quelque part, mais je pense pas que l'Europe soit hors jeu. Parce que c'est toujours ça ce qu'on nous raconte et on nous saoule et on nous répète ça en permanence. On nous dit qu'on est des has-been et qu'on est foutus. Moi, je pense que l'Europe et la France en particulier, on est les meilleurs du monde. Il faut se le dire, il faut arrêter de se flageller. Et puis, il faut se dire que juste grâce à notre éducation mathématique, alors des fois, comme le disait Vanessa tout à l'heure, il y a des gens qui sont laissés sur le bord de la route. Mais en général, quand même, quand les gens ne sont pas laissés au bord de la route, on arrive à des niveaux d'éducation absolument extraordinaires. Et donc, on a une capacité fabuleuse. Et ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, quand vous regardez les 30 premières, les 30 plus grosses compagnies qui sont ici dans la Silicon Valley, les dirigeants en intelligence artificielle sont français.
Et ce n'est pas pour rien aussi. Effectivement, arrêtons en tout cas de nous French-basher nous-mêmes. Et ce n'est pas pour rien d'ailleurs que la France est toujours leader du classement des médailles Fields, le prix Nobel de mathématiques. En un mot peut-être, Luc Julia, qu'est-ce que vous ne pouvez absolument pas faire aujourd'hui grâce à l'intelligence artificielle qui est techniquement impossible, que vous n'avez même pas cherché à appliquer, mais que vous rêveriez de pouvoir faire?
Je rêve pas de pouvoir le faire parce que je veux surtout pas le faire. Ouais. Et un truc qui est impossible à faire et qui sera toujours impossible à faire pour l'intelligence artificielle, c'est d'être humain.
D'être humain, effectivement. Bon, ça, c'est un privilège qu'on va se garder. Merci beaucoup, Luc Julia, d'être intervenu dans les voix des entrepreneurs sur Sud Radio. C'était un plaisir pour nous. Je le rappelle, vous êtes aujourd'hui vice-président innovation de Samsung, l'un des concepteurs de ce logiciel Siri que tout le monde connaît. Merci, Vanessa Pérez, entrepreneur d'un monde nouveau. Merci à vous, Denis Jacquet. À mercredi prochain avec les voix des entrepreneurs. La suite des vraies voix qui font bouger la France tout de suite. Parlons vrai avec les entrepreneurs. On va retourner un peu sur le présent qui est dur, notamment en France. C'est avec Stéphane Soumier sur Sud Radio et sur Bismart.